Bientôt, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et ben du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
La tournée 95 s'arrête au Centre Vidéotron le 27 avril prochain. Les billets sont en vente maintenant sur Ticketmaster.ca. Angèle au Centre Vidéotron le 27 avril, une présentation de Gestev. Le nouvel album 95, en vente partout.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonjour, bienvenue à Conduite Antisportive à Chiz 94.3. Ici Shannon Duff, de retour avec vous pour vous parler un peu de football. On a eu une belle fin de semaine de football. On peut commencer par ce qu'on a eu samedi, la coupe, le match du Rouge et Or contre l'Université de Western, qui a été tout qu'un match en fait. Ça a été une surprise pour plusieurs, parce que Western n'ont pas perdu depuis les deux dernières années, et puis leur arrière n'avait jamais perdu dans sa carrière universitaire, mais... C'était vraiment tout qu'un match. C'est sûr que ça a été un début... c'était pas vraiment difficile, en fait. Le Rougeur jouait bien, avançait le ballon, mais il y a eu des erreurs, comme le coach Constantin l'a dit, de nervosité, que normalement, ça peut renverser les matchs quand on est rendu aussi loin dans les séries. Mais quand même, ils se sont bien... je pense que ça a mis les... Ça a fait que Western est resté sur leur game plan, qui était de courir. En fait, ils ont fait ça toute l'année. Et puis, il y avait plus que 200 verges à la course par match. Et là, malgré qu'il leur manquait un de leurs deux porteurs étoiles, le Québécois, qui a dû s'absenter, Edwards, leur vrai premier porteur, a été arrêté pour 126 verges, 127, de quoi comme genre. C'est quand même impressionnant quand on dit qu'on a été capable de stopper un porteur de ballon, puis il a quand même fait 27 verges. Puis, à part les revirements, le Rougeur a quand même bien joué. C'est sûr que je pense que la défense de Western n'avait jamais joué contre une attaque aussi profonde que ça. Ce qui a fait qu'il jouait... Ce que j'ai vu, moi, je trouve qu'il jouait... Il jouait soft, en fait. Il était loin des receveurs et tout. Puis aussi, il voulait faire attention. Fait que avec Muganda, qui a eu une superbe partie, ça faisait que la façon qu'il court, il y avait tout le temps un, deux, trois verges de gagner que je pense que Western donnait à peu près toute l'année. Et puis, à chaque fois, justement, ben lui, avec son 2-3 verges de rang, quand il baisse le casque, ben, ça faisait tout le temps des 5, 6, 7 verges. Puis quand il breakait un tackle, ben ça allait des plus longues courses, qui a été une recette pour le succès, qui aurait pu être encore une plus grande partie pour lui si le Rougeur ne tenait pas derrière tout au long, presque tout au long de la partie. Puis c'est sûr que c'est une belle remontée, puis ça a mal parti, mais Western n'a pas fait grand-chose la game, en fait. Je pense pas qu'ils ont joué leur meilleur match à la défensive du Rouge et Or. Extrêmement bien joué. Puis ça montre que Western était peut-être unidimensionnel avec leur plan de courir tout le temps, puisque quand il tenait par derrière à la fin et le carrière devait passer, il n'a pas super bien fait, en fait. En fait, il y a eu beaucoup de difficultés, le carrière. On peut juste parler de sa sortie, sa course et sa sortie au dernier jeu du match où il a manqué plusieurs passes, en fait. On peut blâmer la température, tout ce qu'on veut, mais il a moins bien fait que Desjardins. Puis je pense que ça l'a recouté, puisque c'est ça le fait de tout le temps gagner des matchs que c'est jamais serré. Quand tu arrives avec de l'adversité, t'es perdu et puis t'es plus capable de remonter la pente. Je pense que c'est exactement ça qui est arrivé, puisque on va s'entendre que pas mal toutes les gens qui regardent le football universitaire qui sont conscients de la puissance de Western pensaient qu'il allait gagner. Et puis, c'est une belle surprise pour le Rougeard. Puis, il s'en va à la Coupe Vanier qui recherche de gagner depuis... la dernière fois était en 2018, je crois. Et puis, ça ferait du bien. Là, ils se sont habitués au terrain. Ils ont joué là-bas. Il y en a, je pense, encore plus beau que la dernière... que la semaine passée, donc ça devrait les avantager. C'est sûr que Saskatchewan, encore une fois, c'est pas une équipe que le Rougeard fait face souvent. Puis Saskatchewan, je pense qu'ils vont ressortir beaucoup plus fort qu'ils l'ont sorti la semaine passée contre FX, puisqu'on va s'entendre que FX, c'est les champions des Maritimes, puis les Maritimes sont une coche en bas, puis ils ont eu beaucoup de... En tout cas, plus, même s'ils ont gagné par 14, 12 points, quelque chose comme ça, ils ont quand même eu beaucoup de misère à la demi-cité égale, 13-13, et puis ils ont enfin fait des gros jeux plus tard dans la partie, ce qui leur a permis d'avoir leur place à la Coupe Vanier. Mais c'est sûr qu'entre FX et le Rouge et Or, c'est vraiment pas la même game, là. Mais c'est quand même tout qu'un challenge. Faut pas que personne l'apprenne à la légère. Je sais que quand on parle à des joueurs des deux équipes, on essaye de rester humble pour pas que le karma nous hit back, mais on va s'entendre que les deux équipes sont très confiantes en leur équipe, du moins du côté du Rouge et Or, avec ce qu'ils ont fait contre Western. Puis on va pas se le mentir, tout le monde sait que Western est une meilleure équipe que Saskatchewan. Puis, mais c'est quand même, ça joue sur le terrain, puis il y a des choses qu'ils vont être capables de faire, qui ont fait la semaine passée, et d'autres que non, comme dans tout match de football. Puis j'ai hâte de voir ça, j'irai pas jusqu'en Ontario pour voir ça, mais je devrais l'écouter à radio justement sur les ondes de Chiz, puisque je suis au travail le long du match. Puis, on espère qu'ils vont soulever la Coupe Vanier. C'est sûr que après tous les efforts qu'ils ont fait, des deux matchs très difficiles, un contre Montréal et puis un contre Western, je pense qu'ils sont prêts à tout rendu là. Aussi, ce que j'ai regardé un peu les statistiques, puis j'ai regardé... Saskatchewan jouer. Ils ont un excellent corps arrière qui court pas extrêmement, donc qui est mis dans sa pochette, qui va lancer des passes précises, qui est rendu un peu anormal dans le football de nos jours, puisque c'est rendu quasiment essentiel d'avoir les jambes pour courir pour un corps arrière. C'est comme un atout qu'on s'attend de tout le monde, même dans les ligues plus hautes, et puis surtout dans les ligues comme ça, où il y a quasiment tout le monde aussi de moins haut calibre, et il y a beaucoup d'athlètes. Et bien, ça fait que on cherche beaucoup à ce que le corps arrière puisse improviser, en fait, avec ses jambes quand il le faut. Et puis, c'est sûr qu'il y a des exceptions, tout comme dans la NFL avec Tom Brady, où il y en a que tu peux leur faire un game plan qui reste dans leur pochette, puis tout est stratégique, puis ils vont suivre le plan à la lettre et ils manqueront pas aucune passe. Ce qui fait que si la O-line tient comme il faut, le game plan va pouvoir s'effectuer correctement. Puis aussi, ils font beaucoup de verges. C'est une équipe d'offensive. Puis ils laissent beaucoup de verges en défense aussi. Fait que ça devrait être un bon show. C'est sûr que Laval sont reconnus. Puis ça fait quelques parties que la défense de Laval est très, très, très solide. Et puis, j'ai hâte de voir une attaque comme Saskatchewan qui a eu, comme j'ai dit plus tôt, qui a eu beaucoup de difficultés à s'allumer contre FX la semaine passée. Si ça va pas, s'ils vont pas ressortir un peu plus fort, sachant que le Rougeard, c'est un beaucoup plus gros challenge à relever la semaine prochaine. Puis du côté du Rougeard, mais c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas vraiment de leur équipe est assez complète. Il n'y a pas vraiment de faiblesse, je dirais, dans cette équipe-là. Ce que je peux retenir, qui a été, si je me fie à la partie de la semaine passée, ce qui a été plus difficile, c'est d'avoir la pression sur le corps arrière. Oui, Western, surtout leurs deux tackles, c'était des géants. Et puis l'ensemble de leur ligne offensive est excellente. Mais ils ont eu beaucoup de difficultés à avoir de la pression sur le corps arrière. Ce qui fait que... Si c'est la même chose la semaine prochaine contre un carrière qui est bien dans sa pochette, mais bien, ça peut être risqué, puis ça peut laisser beaucoup de verges en fait sur le terrain puisqu'ils sont pas capables d'avoir la pression nécessaire. Puis sinon, en attaque, ben c'est sûr, les revirements, mais ça, on pourrait dire ça à chaque partie. Puis c'est sûr que les snaps, mais c'est pas vraiment, c'est un manque de communication. C'est pas en fait ce qui se passe sur le terrain exactement, mais c'est des choses à éviter, mais on pourrait dire ça à chaque partie, c'est des intangibles, puis c'est des choses qui arrivent dans le football. Puis je pense que Desjardins fait assez attention au ballon pour ne pas lancer de niaiseries en fait qui vont lui coûter la game. Puis sinon, il n'y a pas même un trou dans cette équipe-là. Ils m'ont impressionné la semaine passée. Je vous avoue que je trouvais Western impressionnant, puis je voyais pas ce que Laval apportait de plus justement que cette équipe-là. Puis je pense que c'est vraiment la complexité et puis l'ensemble, l'unité de cette équipe-là qui fait qu'ils ont pu relever ce défi-là. Alors, je leur souhaite bonne chance, puis espérons qu'ils ramènent la Coupe Vanier à Québec. Puis ça ferait du bien, puis ça donnerait... ça finirait bien la saison pour les joueurs et puis pour Glenn qui a battu beaucoup de records cette année. Donc je pense qu'elle mérite. Puis encore un dernier challenge, puis je pense qu'ils sont prêts, puis ils ont hâte de jouer. Puis ça va se passer sur le terrain. Puis bonne chance aussi à Saskatchewan qui a fait un beau gros voyage jusqu'à FX la semaine passée. Puis là, ils vont jouer en Ontario, peut-être un terrain un peu plus familier pour eux, un peu moins loin. Maintenant, je vais passer du côté du football professionnel, puisqu'il y a encore eu une belle fin de semaine de football. Beaucoup de questions qui se posent là. Est-ce qu'il y a des changements à apporter là, puisque c'est comme on est vraiment vers la fin là, de est-ce que qui va faire ci, qui va faire ça. Donc, puis les positions sont. Vu qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de matchs dans la NFL, comme j'ai dit plusieurs fois dans des émissions justement précédentes, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de parties, ça fait que si quelqu'un part sur une série, à moins qu'il soit vraiment dans le bas en ce moment, c'est qu'ils ont une chance de faire les séries. Puis aussi les équipes qui sont bonnes, ils peuvent faire le contraire justement de perdre plusieurs matchs et puis de se sortir de les séries. Moi, ce que je retiens le plus et puis je pense qu'il est vraiment le sujet de l'heure avec ce qu'il y a eu en fin de semaine, c'est le cas de Zach Wilson, le corps arrière des Jets de New York, qui a eu une performance assez piètre. C'était vraiment terrible, surtout en deuxième demi. Je pense qu'ils ont fait 7 verges en attaque, les Jets. Oui, j'avais callé que les Patriots allaient battre les Jets. Les Jets peuvent pas battre les Patriots, mais de là à que les Jets perdent parce qu'ils ont fait seulement 7 verges en deuxième demi. Puis le seul point que... les points des Patriots qu'ils ont fait justement en deuxième demi, c'est un retour de beauté, touchdown. Donc... on peut pas blâmer la défense. Et puis, il y a des questions qui se posent. Il y a beaucoup de gens qui mettent la faute sur Zach Wilson, même des joueurs de l'équipe. Et je pense pas qu'ils veulent le viser comme les médias le montrent. Mais quand même, c'est une question à se poser. C'est sûr que je vois pas c'est qui leur... Ben, je sais que c'est Joe Flacco, leur deuxième carrière, mais est-ce que je crois qu'il pourrait élever le jeu de cette équipe-là? Je ne crois pas. Donc, laissez-lui du temps. Ils sont quand même 6-4. Tout le monde est impressionné. C'est sûr que je pense que c'est la pire équipe de cette division, les Jets. Mais... ça reste à voir. Ils sont bien partis, même avec cette défaite-là. C'est sûr qu'il y a des trous, par exemple. C'est sûr qu'il y a des trous dans cette équipe-là. C'est ça qui arrive quand on a une équipe jeune. Puis, il va avoir des rumeurs comme ça quand tu as une carrière aussi polémique que ça. Ensuite, Melvin Gordon a été laissé aller. Par les Broncos. Il y avait déjà des mécontentements, je pense pas. Il y en a beaucoup qui disent que c'est problème de fumble. Les analystes disent ça, mais ça fait longtemps que Melvin Gordon il dit qu'il veut plus la balle et puis qu'il aimerait ça s'en aller. Donc, je pense qu'ils ont juste essayé de trouver quelqu'un qu'on allait changer, les Broncos. Ou bien, ils voulaient attendre, voir comment l'équipe allait se dérouler, même si c'était évident que des performances qui montraient que cette équipe-là n'est nulle part. Puis là, je pense qu'ils ont juste trouvé personne. Puis anyway, il est trop tard pour faire des échanges. Donc, ils l'ont laissé partir. Peut-être que ça devenait une distraction justement dans la salle, dans les vestiaires des joueurs. Je pense qu'il y a encore du talent de ce côté, de ce porteur-là. Mais quelle équipe qui est déjà, mettons... Qui est bien bâti, puis qui aimerait ça, qui est dans le mode de gagner à l'instant, bénéficierait de ses services. Ça ne me vient pas en tête, peut-être. En fait, non, je pourrais pas dire. Je pense que chaque équipe qui est sur une bonne lancée a quand même un porteur de meilleur calibre que ça. Puis, ce qu'il fait Melvin Gordon, justement, c'est vrai qu'il fait des fumbles, mais c'est un joueur explosif, donc c'est un risque à prendre de l'avoir comme deuxième porteur de ballon. Aussi, d'autres surprises de la fin de semaine. Les Cowboys ont complètement anéanti les Vikings. Bien que ça me rend pas spécialement heureux, ça, il y a quand même des positifs que ça montre que les Vikings sont peut-être pas aussi bon que le record le dise. Oui, ils ont bâti des bonnes équipes et tout, mais là, de se faire anéantir comme ça, je pense que c'est vraiment... Il y a quelque chose, justement, dans cette équipe-là qui les empêcheront d'aller loin. Puis, si vous écoutez souvent mon émission, vous pouvez savoir ce que je pense de la pièce, justement, qui est nuit, qui est leur corps arrière. Et puis, j'ai vu un mime rigolo, justement, sur les internets que Kirk Cousins était seulement élite quand il jouait à 1 heure. Et puis, à toutes les autres heures, il devenait, je me rappelle plus c'était qui, c'était peut-être Baker Mayfield, justement, la comparaison de quoi de même. Puis j'ai trouvé ça bien drôle puisque c'est exactement comment Kirk Cousins joue. Puis aussi, c'est sûr que se faire battre 40-3 contre les Cowboys qui venaient de perdre justement contre leur rival de division, c'est vraiment... Je ne sais pas ce qui s'est passé, puis ça permet justement à mon équipe, les Eagles, de rester au premier rang avec un match d'avance pour la première place dans la conférence, puisque les Eagles ont gagné de peine et de misère contre les Colts, qui ils m'ont fait stresser un peu les Colts, puisque c'était pas fameux du côté des Eagles. Il y a eu des belles choses et tout, mais moi, je vais dire, ma théorie, c'est que Nick Sirianni, le coach des Eagles, justement, c'est un ancien des Colts, donc il y a pas son plan de match était plus facile à dépister pour les Colts, et puis moi, je vais avec cette théorie-là, pourquoi ça l'a été aussi difficile pour les Eagles, puis je vais suivre avec ça. On joue contre les Packers, je crois, la semaine prochaine, oui. Oui, bien sûr. Je sais pas, les Packers ont battu les Cowboys, ils pourraient bien nous battre si on joue comme les deux dernières semaines. Mais quand même. Je pense que c'est le temps de se réveiller. Puis on a signé Linval Joseph puis Sue. Donc, pour avoir du renforcement sur la ligne défensive, je crois pas que c'était absolument nécessaire, mais ça fait du bien d'avoir des vétérans comme ça qui ont quand même eu un impact la dernière partie. Puis avec le retour de bientôt de Jordan Davis, la recrue de Georgia qu'on a repêché cette année, bien on pourrait être une force instoppable. Ensuite, les Bengals ont enfin été capables de battre les Steelers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de l'année, les Steelers avaient surpris les Bengals, puis les Bengals ont mal parti. C'était pas fameux. Il y a encore quand même eu de la misère. TJ Watt était de retour, ce qui a prouvé son impact. Il a fait une super belle interception. Puis, mais l'attaque des Bengals, surtout aérienne, a quand même fait le boulot. Puis le manque d'expérience du côté des Steelers pour les corps arrière, eh bien, ça a fait que Kenny Pickett n'est pas très... très efficace, je dirais. Il manque beaucoup de passes, surtout que les Steelers, depuis les dernières années, ils se basent vraiment sur lancer des passes courtes et rapides, puisque Ben Roethlisberger était en fin de carrière et tout, puisqu'il n'y avait plus le bras qu'il y avait. Donc, je pense que la transition se fait tranquillement, puis ça va y prendre du temps. Malgré ça, ils ont quand même donné une bonne bataille aux Bengals qui sont en train d'essayer de chasser les Ravens, qui eux aussi continuent de gagner. Même eux aussi, c'était pas très fameux en fin de semaine, mais eux, la température était absolument dégueulasse. C'était quasiment un ouragan. Puis, donc ils se sont quand même sortis. C'est sûr que Baker Mayfield n'a pas joué le match de sa vie, puis il a lancé encore une connerie en fin de game. Mais bon, ça donne une victoire aux Ravens comme ça facilement, qui, eux, justement, doivent continuer à gagner, puisque si les Bengals gagnent, ben eux, ils doivent gagner pour garder leur première place dans la division AFC Nord. Et puis, d'autres surprises, ben les Giants ont prouvé qu'ils étaient une fraude, comme j'en doutais au début de l'année. Se faire battre comme ça contre les Lions, à New York, justement... Je pense que ça prouve que cette équipe-là jouait au-dessus de ses moyens. Puis Daniel Jones est revenu, Daniel Jones, qui est vraiment n'importe quoi, où les conneries sont plus présentes que les beaux jeux. Puis Saquon Barkley a été complètement stoppé avec seulement 22 verges sur 15 courses. Donc, je pense que c'est ça la recette. Si on stoppe Saquon Barkley, ben, ils sont... fini. Un peu comme le rouge et or contre Western. En fait, tu stoppes la run, puis en fait, après, quand t'as un QB comme Daniel Jones, c'est ça que ça fait. Tu peux pas y mettre trop de choses en main, puisque on va se le dire, il est le fun, Danny Dimes à regarder, mais des fois, ça en fait questionner plusieurs ses décisions. Mais moi, personnellement, ça me fait rire. Cordarrelle Patterson a battu un record pour les retours. Il a fait encore un retour de beauté touchdown qui a été très important contre les Bears en fin de semaine. Puis c'est quand même impressionnant de voir ça, qu'un joueur qui s'était bien établi comme porteur justement dans les dernières années. Avant, il était justement plus un retourneur et tout. Puis là, même s'il était bon porteur avec Atlanta, il est quand même capable de faire un impact. Puis il se fait tout le temps... Il a joué pour je sais pas combien d'équipes, Cordarrelle. Puis je l'aime bien. Puis c'était le fun de voir qu'il pouvait faire encore des gros jeux comme ça. Justin Field a encore eu une bonne semaine à la course. Puis, mais il perd tout le temps. Donc je sais pas, peut-être qu'il va falloir changer le plan de cette équipe-là, ou à moins qu'ils fassent exprès pour avoir... Mais en fait, je vois pas pourquoi ils feraient exprès les Bears, parce que la draft de l'année prochaine est une classe contrairement à l'année passée, qui a des carrières vraiment 3 ou 4, justement, je pense qui partiraient dans le top 10. Donc, puis je pense que les Bears, s'il y a quelque chose qu'ils doivent bâtir autour, c'est justement Justin Field. Alors, je comprends pas pourquoi il ferait exprès pour perdre, pour avoir une meilleure position qu'ils n'auront pas besoin. Aussi, les Rams aussi, surprise. En fait, est-ce que c'est rendu une surprise rendu là? Puisqu'ils sont extrêmement mauvais, les Rams. C'est, je sais pas ce qui se passe là, mais c'est dur à regarder. Comment cette équipe-là a pu gagner le Super Bowl, ça, c'est hors de moi. C'est sûr que Cooper Kupp n'était pas là, que Matthew Stafford il est un peu amoché. Mais là, de là à perdre contre les Saints de Andy Dalton, qui eux aussi ont tout autant de misère, je sais pas pour eux, ce qu'ils font pour eux. Ils ont, mais comme j'ai dit la semaine passée aussi, ils n'ont pas de choix en repêchage. Donc, est-ce que c'est la fin de l'ère des Rams déjà, après seulement un championnat? On dirait bien qu'il y a des rumeurs, il y a eu beaucoup de rumeurs justement à la fin, quand ils ont gagné leur Super Bowl, que peut-être que Darnold allait partir, que le McVay aussi. Là, c'est sûr que c'est dur de partir avec un championnat dans les mains, puis avec une équipe qui se ressemble beaucoup. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs qui vont sortir sur cette équipe-là dans les prochaines semaines du futur, de ce qu'ils vont faire, puisque ça regarde vraiment pas bien. Puis c'est vraiment pas du bon football qu'ils jouent. J'ai de la misère à comprendre comment aussi rapidement il y a pu avoir un changement dans la puissance de cette équipe-là. Il y a eu la game des Bills contre les Browns. Aucune surprise du score du match, 31-23, mais la surprise, c'est qu'il y a tellement neigé à Buffalo, justement, qu'ils n'ont pas pu jouer au stade des Bills. Ils ont dû jouer au stade des Lions, qui eux jouaient à New York. Les Lions ont eu la gentillesse de leur prêter, puisqu'il y avait extrêmement de neige. Je sais pas comment eux, ils peuvent en avoir plus qu'ici. Nous, on a eu du froid à place. Je sais pas si c'est vraiment mieux. Mais il y avait vraiment, vraiment... je sais pas, vous regarderez des articles sur ça, que c'était littéralement pas jouable. Puis je pense que... Je sais pas s'ils vont être capables de se débrouiller pour... en fait, ils jouent pas la semaine prochaine, donc ça devrait être correct. Je veux dire, ils jouent pas à Buffalo, donc ça devrait être correct. Et puis, sinon... Ah, les Raiders ont enfin gagné. Les Raiders, je les regarde quand même souvent, puisque personne dans la famille qui l'aime bien. Puis, ils ont réussi à gagner. Puis, en les regardant jouer, je me suis dit, une chance que Devante Adams est là, puisqu'il pourrait littéralement être 0-10, cette équipe-là, les Raiders, sans Devante Adams. L'impact qu'il y a est incroyable, puis ils perdent quand même souvent. Est-ce que c'est vraiment Derek Carr le problème? En tout cas, ça m'attriste de voir ça, puisque lui qui pensait bien faire de partir d'une équipe des Packers qui était quand même bonne, mais qu'on voit que le ceiling était peut-être atteint, comme il prouve cette année, mais je pense que les Raiders sont encore pires. Donc, un risque qu'il a pris et puis qui n'a pas été... qui n'est pas une fortune, en fait, pour l'instant, pour Adam. Il va avoir une fortune dans ses poches, puisqu'il y a au contrat qu'il a signé. Je pense pas je pense qu'il va être correct. Il va pouvoir s'essuyer les larmes avec ses billets d'argent. Les deux derniers matchs avant qu'on parte en pause. Chiefs Chargers, excellent match. Je ne sais pas si vous avez vu. Nicole Hardman, qui ne pouvait pas jouer, était à sa maison. Puis il a brisé sa télé en lançant... c'est un receveur des Chiefs, en fait, Nicole Hardman. Puis il était blessé. Puis il a lancé sa télécommande dans sa télé. Puis il l'a brisé. Donc il a manqué la fin du match après que les Chargers aient scoré un touchdown en fin de match qui le mettait au top. Mais comme d'habitude, Patrick Mahomes a fait de la magie. Lancé à Kelsey, qui a eu un excellent match, qui a tout le temps des bons matchs, en fait, contre les Chargers. Et puis, un autre touché en fin de partie, ce qui leur a permis de continuer sur une bonne lancée. Puis, je trouvais ça loufoque, l'anecdote de Michael Hardman. Et ensuite, hier, il y avait le match à Mexico City, en fait. Je pense que c'est le seul... C'est exactement, en fait, le seul highlight de ce game-là, puisque les Cardinals n'ont pas... Cardinals sans Kyler Murray. Même si Kyler Murray, des fois, c'est pas fameux, mais au moins, ça peut être entertaining. Mais là, contre McCoy, c'est... En tout cas... Puis Jimmy a joué correct. Fait que je pense qu'il n'y a pas grand autre chose à dire sur ce match-là. Mais c'était au Mexique, puis il y avait un show en espagnol... Half-time. Donc, voici pour ce qu'il y avait la semaine passée. On va aller en pause, puis on va parler de ce qui s'en vient après.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Tu dévores les journaux? Tu te régales de politique? Tu salives lorsqu'on te parle d'actualité? Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Quand tout sera bon, c'est
Astral.
On dirait un Chiz 94.3.
Dégoûte!
Je pense à toi.
Jexcel.com recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes.
On te jugera aussi quand tout sera perdu. Dix ans que je suis parti.
Yeah. Re-bienvenue à Condistance sportive à HS 94.3. Désolé pour le super mash-up de musique et de pub en même temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, on va continuer de parler de football dans ce cas-là. Mais plus intéressant, de toute façon. Ensuite, ce qui s'en vient, en fait, pour le football, j'ai parlé un peu du Rougeard qui joue samedi à 1h au stade de Western. Je sais, c'est-tu le Western Alumni Center, quoi de même? Puis, justement, contre Saskatchewan, samedi à 1h, qui va passer, je crois, à TVA Sport et aussi à la radio à Chiz 94.3 sur nos ondes. Sur Internet, en fait, je crois aussi. Moi, j'ai été capable de le trouver sur le site Internet. Pour ce qui est de la NFL, c'est le Thanksgiving week-end justement aux États-Unis qui, eux, le célèbrent beaucoup plus que nous. Ça fait que c'est une tradition d'avoir, au lieu d'avoir seulement un seul match le jeudi, eh bien, ils peuvent célébrer avec trois matchs. Le premier, c'est Bills contre Lyon. Les Lyons jouent très souvent, en fait, au Thanksgiving. Je n'ai pas fait mes recherches du pourquoi, mais... C'est un match, je pense, qui va être à sens unique du côté des Bills. Mais bon, ça fait du bien d'avoir plus qu'une partie de jeudi pour ceux qui ont peut-être moins d'école ou qu'ils veulent se distraire au travail. Aussi, Giants Cowboys, game de division, c'est sûr que les Cowboys allaient jouer le jour du Thanksgiving. Puis Je pourrais pas dire, je pense que les deux équipes ont des lacunes, mais c'est sûr que les Cowboys sont sortis extrêmement forts contre les Vikings la semaine passée. Donc, je pense qu'ils seraient capables de battre les Giants facilement, surtout qu'ils jouent à Dallas. Dallas, c'est quand même c'est le stade de l'équipe d'Amérique, comme ils se prononcent, en fait. Aussi, Patriots Vikings, qui vont compléter ce beau jeu du soir. De football. Je pense qu'il n'y a plus de... j'ai regardé, puis il paraît qu'il n'y a plus de semaines de congé. Je pense qu'ils ont déjà tout été passés. Donc, je pense qu'il va y avoir plus de matchs. Ça va faire du bien. Puis, ça va permettre aux gens qui jouent en fantasy de pouvoir mettre tout le temps les meilleurs joueurs qu'ils ont draftés. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à regarder la semaine prochaine niveau football? Je pense que... Il n'y a pas grand-chose. Je pense que rendu où on est dans l'année, on sait qui va gagner, qui va perdre. En fait, on sait, c'est toujours des prédictions et tout. Mais moi, à part mon équipe des Eagles, que j'ai quand même peur de jouer contre les Packers, malgré qu'ils font un peu n'importe quoi, les Packers, eh bien... Il n'y a rien vraiment. Je pense que ça va être une bonne semaine, mais qu'il n'y a aucun match-up en fait qui est plus favorable qu'un autre. En fait, je pense que je vais parler un peu de basket aujourd'hui, ça me tente. Puis ça fait longtemps que j'en ai fait, puis j'ai aussi. Je le regarde quand même aussi pas mal. Donc, c'est sûr que étant venant du Canada, mon équipe est les Raptors. Puis ça va coussi-coussa ces temps-ci. Les Raptors, depuis qu'ils ont perdu... est-ce que c'est un joueur étoile? Est-ce qu'on considérait Pascal Siakam comme un joueur étoile? Ça pourrait être un débat, puisqu'il n'y a pas beaucoup de joueurs étoiles, je dirais, dans la ligue dans la ligne professionnelle de basket. Puisque vu qu'ils sont beaucoup moins, ça fait que l'équipe d'étoiles, justement, est moins grande. Puis, il faut vraiment se démarquer pour faire partie de l'équipe d'étoiles. Sinon, oui, c'est ça que je dis. Les Raptors ont eu un tough stretch depuis la perte de Pascal Siakam. Ils ont gagné contre les Bulls. Après, ils se sont fait ramasser par les Bulls. Ils ont perdu contre des équipes comme les Thunder, les Pacers. Ils ont eu de la misère contre les Pistons. Peut-être contre les... Ah, ils ont battu le Heat au moins, c'est quand même bon. Mais ils ont perdu contre les Hawks par deux la dernière game. Donc, ça les met autour de 500. Ce qui, des fois, peut être suffisant dans la NBA, surtout avec le play-in, où les équipes... 7-8-9-10. Oui, exactement. 7-8-9-10 vont s'affronter contre. Puis c'est sûr que c'est pas la saison idéale, mais quand tu perds une pièce maîtresse comme Pascal Siakam comme ça, il y a d'autres blessés aussi. C'est rare qu'on joue avec notre équipe au complet. Puis sinon, Scotty Barnes joue bien, la recrue. C'est sûr qu'il n'y a pas eu le il y a pas, je dirais pas qu'il y a un jump, contrairement à l'année passée, dans son niveau. Mais je dirais pas non plus qu'il y a un slump, justement, ou que ça va beaucoup moins bien. C'est sûr que c'est une équipe qui n'a pas de centre, puisque c'est souvent Pascal Siakam qui joue à la position de 5, en fait, la position de centre. Donc, d'avoir perdu ça, ça les met comme après à dépourvu. Puis, ils essayent tout plein de choses, tout plein de... C'est sûr que ça permet plus d'espace sur le terrain, mais ça fait que, justement, les équipes, eux, qui ont moins d'espace en attaque, qui vont dans la paint et tout, ben ça fait que les Raptors sont clairement désavantagés face à ça. Aussi, t'sais, la saison est très, très jeune. Je pense qu'il n'y a même pas une vingtaine de games. On s'approche de la vingtaine, justement, des parties jouées pour chaque équipe. Et puis, c'est sûr, les Celtics qui sont allés au championnat l'année... qui l'ont pas gagné, mais qui sont allés au championnat l'année passée, sont encore bien partis. Sont premiers, justement, dans la conférence de l'Est, suivi des Bucks aussi. Aucune surprise de ce côté-là. Les Bucks, c'est toute qu'une équipe. Giannis continue à faire pas seulement des statistiques, mais à être super dominant. Le retour aussi de Chris Middleton, qui a manqué beaucoup de temps l'année passée, elle leur fait beaucoup de bien. Les Cavaliers aussi sont... Ils se débrouillent quand même bien avec les changements qu'ils ont eu avec l'arrivée de Donovan Mitchell, qui est un joueur étoile. Puis je pense que ça va de mieux en mieux pour eux. C'est sûr que peut-être c'est une équipe très jeune. Puis au basket, que, tout comme dans plusieurs sports, ça peut peut-être les nuire à long terme. Mais bon. Après, ces deux équipes qui me surprennent, Pacers, Wizards, qui sont dans une place, qui ont un bon record positif, en fait, que je m'attendais pas à ça au début de l'année. Les Pacers... C'est une équipe qui est souvent bien coachée et tout, mais qui n'a pas le... En tout cas, en ce moment, elle n'a pas le superstar qui est comme quasiment indispensable au basket. Contrairement, vu qu'on joue seulement à 5 sur le terrain, un superstar peut pas tout faire, mais peut vraiment faire la différence quand il est temps de tourner la game et puis de prendre le parti dans ses mains. C'est sûr qu'ils ont des bons joueurs comme Haliburton, l'échange qu'ils ont fait pour... Au début, je vais vous avouer que l'échange de Haliburton contre Sabonis aux Kings était quand même questionnaire parce que je pensais que Sabonis... en fait, je le trouvais bon justement avec les Pacers, mais là, je pense qu'Haliburton, qui avait pas le rôle, je pense qu'il devait avoir, en fait, qu'il méritait avec les Kings à cause de De'Aaron Fox, est en train de montrer que c'est tout qu'un... Même si sa motion de shot, en fait, puis son playstyle n'est peut-être pas conventionnel, c'est quand même tout qu'un joueur. Aussi, on pourrait dire que c'est l'effet Bénédicte Mathurin qui permet, je pense qu'il average de quoi comme proche de 20 points par game, mais je sais pas s'il est rendu starter, mais je sais qu'il a été longtemps sur le bench, mais c'est le fun de voir ça quand même, un Québécois qui domine autant que ça dans la NBA. Ensuite, l'autre équipe qui me surprend, c'est les Wizards. Les Wizards une couple d'années, en fait, justement, qui ont un peu de misère. Puis, c'est sûr que Bradley Beal, avec son contrat, ça fait du bien, mais ça reste que la plupart de... tu sais, leurs joueurs qu'ils ont dans cette équipe-là restent que je pense qu'ils vont revenir où ils sont supposés être, qui est dans le bas du classement au cours de l'année, puisque il manque clairement de talent et puis il manque d'expérience aussi. C'est une équipe aussi, il manque de futur, il manque de tout, en fait. J'ai regardé une vidéo récemment sur le basket, justement, qui disait que Bradley Beal, justement, avec son immense contrat, avait quasiment un des pires contrats de la ligue, malgré que ça soit qu'il ait un bon joueur. Le fait qu'il ait ce contrat-là, puis qu'il puisse ne pas le bouger, puisqu'il y a une no trade clause, ça veut dire que c'est lui qu'ils ne peuvent pas l'échanger comme ça. Ça fait qu'ils sont comme pris avec. Donc, si jamais ça continue de mal aller, comment tu fais pour avoir un processus de reconstruction si. Justement, si tu as un gros contrat d'au-dessus de. Je pense que ça s'approche du 50 millions quasiment, qui est un montant. C'est sûr que ça impressionne tout le monde encore des chiffres comme ça, mais avec le revenu que la NBA génère, et puis ils n'ont pas 50-60 joueurs à payer comme dans la NFL, donc même ils n'ont pas autant de gars à payer que au hockey, donc ça fait que ça fait plus d'argent pour les joueurs. Et puis, tant mieux pour eux. C'est sûr que je crois que ça va faire que les équipes que justement qui déçoivent, comme peut-être le Heat, les Bulls, les Nets, les Sixers, ça va faire plus de parité au cours de l'année. Donc, ce qui va faire qu'on va encore, d'après moi, on va encore considérer la conférence de l'Est au basket comme faible, puisque d'après moi, de la position 4 jusqu'à peut-être 10, ça va s'approcher du 500. Puis je pense qu'il va y avoir peut-être 2-3 équipes, peut-être Boston, justement les Bucks. Je pense que les Cavaliers, j'y mettrais vraiment en plus haut que les autres, mais pour le moment, c'est ça qui monte. En fait, puis ça fait souvent ça dans l'Est. Il y a beaucoup, beaucoup de parité de la position 4 jusqu'à la position, position 10, qui maintenant avec le play-in, ça fait que tout le monde va avoir la chance de se battre pour continuer dans les séries. Aussi, si on va plus dans l'Ouest, d'où on est peut-être un peu moins familier, puisqu'ils passent beaucoup moins à la télévision, ces équipes-là, il y aurait, tu sais, le Jazz, quelle surprise, le Jazz, ils ont échangé, c'est eux qui ont fait deux gros échanges, ils ont échangé Donovan Mitchell aux Cavaliers, justement, et puis ensuite, ils ont échangé Rudy Gobert, au Timberwolves, ce qui fait que leur équipe a complètement changé, puisque c'était vraiment la base de cette équipe-là. Ces deux-là, ils ont essayé, puis ils ont malheureusement choqué plusieurs années d'affilée dans les playoffs. Et puis, il y avait des rumeurs que Donovan Mitchell et Rudy Gobert ne s'entendaient pas bien, donc c'était sûr que je pense que c'était un bon peut-être. C'est sûr qu'ils ont eu énormément en retour, mais tu sais, c'était. C'est sûr, c'est le fun d'avoir énormément en retour, mais des fois, c'est pas capable de remplacer même. C'est comme. Faudrait avoir quality over quantity. Puis on dirait qu'il y a beaucoup d'équipes justement qui font des échanges comme ça. Puis après, ça les nuit au long terme. Mais là, avec ce que les Jazz nous montrent, peut-être qu'ils ont vraiment bien fait ça. Puis c'est surtout Laurie Markkanen qui est devenu en fait le favori pour remporter le trophée du joueur le plus amélioré avec toute une saison. Puis je pense que c'est une équipe, justement les Jazz, j'ai toujours trouvé que c'était une équipe qui jouait en équipe, en fait, d'où pourquoi ça n'a jamais trop marché avec Rudy Gobert et puis Donovan Mitchell, puisque surtout Donovan Mitchell qui est beaucoup un gars qui veut la balle, en fait, qui doit être un joueur de volume, ce qui fait que quand tu es dans une stratégie où tu dois plus passer le ballon, plus partager, un peu comme les Spurs aussi, ils font aussi bien ça, mais là, c'est sûr que les Spurs, avec le personnel qu'ils ont, peu importe ce qu'ils font, ça va être catastrophique. Mais je pense qu'ils ont justement des joueurs qui vont tout donner, puis qui vont pas être selfish, qui est souvent un skills. Ben, je pense que c'est au basket que ça paraît le plus d'être selfish. En fait, des fois, au football, c'est sûr, parce qu'au football, t'as moins le contrôle, là, mais des fois, il y a beaucoup de joueurs selfish dans la NBA. Je pense pas que c'est le cas, justement, des Jazz, d'où pourquoi ils ont eu tant de succès en ce début d'année. Aussi, je pense que les Kings aussi qui ont une place, un autre surprise pour moi, puisque les Kings sont je pense ça fait je sais même pas, je pense depuis que je regarde le basket depuis 10-15 ans que les Kings ont toujours été mauvais, puis ils ont eu des bonnes saisons avec DeMarcus Cousins puis Isaiah Thomas, mais même là ils ont jamais, je pense, vraiment fait les séries avec ça. Puis là, ils sont partis sur une bonne lancée. En fait, ils n'étaient pas bien partis. Mais là, ils ont une série de victoires qui s'étend jusqu'à 6. Puis, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Et puis, la recrue Keegan Murray, qui a été excellent justement dans la ligue d'été au basket, continue de bien faire. De Aaron Fox, après une saison décevante l'année passée, revient le De'Aaron Fox qu'on aimait tant. Et puis ça fait que ils sont capables d'avoir des séries de victoires comme ça et puis d'être dans une bonne position en début de saison. C'est sûr que c'est quand même différent puisque la dernière place dans le play-in et 9-8, justement, ce qui est quand même... qui est le record, justement, des Raptors dans l'Ouest, justement. Si les Raptors étaient dans l'Ouest, ce serait, justement, 10e place. Donc, on peut voir qu'il y a encore beaucoup de parité dans les deux conférences, ce qui est le fun. C'est sûr qu'il y a des équipes comme... je pense que les Lakers, ça fait 3 qui ont gagné, puis ils sont quand même 5-10. Donc, ça augure pas bien, mais je pense que ils vont être capables de à moins qu'il y ait des blessés et tout, là, qu'il y a souvent, parce que quand t'as Anthony Davis dans ton équipe, c'est sûr que tu vas avoir des blessures. Mais je pense que ça peut pas être pire que comme l'année passée, là. Je pense que... Mais c'est parce que je sais pas vraiment s'ils pourraient vraiment échanger Westbrook et des gars comme ça pour essayer de changer les choses. Pas parce que le contrat de Westbrook est immense, mais parce que est-ce que le monde veut vraiment jouer à Los Angeles avec tout ce qui se passe? Puis avec les rumeurs qu'il y a, les rumeurs des Lakers, c'est qu'ils sont... Ils vont échanger pour tous les joueurs tous les stars de la NBA. Donc c'est quand même dur de se fier à ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Ben, c'est juste dur à croire quand il y a des rumeurs qui vont chercher n'importe qui. Aussi les Warriors qui viennent de gagner le championnat, qui ont un départ assez médiocre. Ce qui est quand même surprenant, mais comme on peut voir avec le football des Rams puis les Warriors, que des fois, c'est pas facile de revenir en force, mais même là, même si on gagnait le championnat l'année passée, je comprenais toujours pas comment ils ont fait, puisque je trouvais qu'il y avait beaucoup de lacunes dans cette équipe-là, et puis ils ont toujours pas de centre. Puis, sûr que Steph Curry, c'est Steph Curry, là, je pense que il y a quand même au-dessus de 30 points par game, puis c'est un des meilleurs shooters de 3 points de tous les temps. Mais là, c'est ça. Donc, même si Steph Curry fait ça, ce qu'il a fait l'année passée, on dirait qu'il manque le support qu'il avait peut-être l'année passée. Je pourrais pas dire. Pourtant, il y a quasiment la même équipe. Puis, j'avais parlé un peu de basket au début de la session, justement. Puis moi, je pensais que justement les joueurs... Je pensais que c'était l'année où les joueurs des Warriors, justement, allaient pouvoir se développer encore plus. Puis... mais ça, c'est pas le cas, justement. On commence à... j'ai vu quelques vidéos, quelques articles qu'il faudrait commencer à mettre justement les jeunes joueurs des Warriors qu'on n'arrête pas de dire qu'ils vont continuer la dynastie et tout, comme les James Wiseman, Kaminga, des choses comme ça qui ne développent pas au rythme qu'on veut. Puis je pense que peut-être pas dire que c'est des boss, mais de pas être aussi haut sur les Warriors grâce à eux. Oui, Jordan Poole continue à bien faire. Mais Klay Thompson, je pense qu'il s'en va dans le déclin. Draymond Green aussi, même si Draymond Green n'est pas... je pense qu'il est justement un system player. Je pense que c'est rare qu'on voit ça dans l'NBA, mais c'est exactement ça. Puis, mais je pense qu'avec Steph Curry, tu peux jamais en douter. Ça fait, s'il se trouve une place dans les séries, ben garde, il va être capable de gagner gagner 4 matchs contre n'importe qui si avec l'expérience et le lancer qu'il y a. Aussi, ce qui m'impressionne aussi, les Timberwolves sont 10e à 9-8 avec une série de 4 victoires. Donc, ils étaient vraiment mal partis. Avec l'échange que j'ai fait, je pensais que ça allait vraiment les aider, justement, d'aller chercher Rudy Gobert, même si j'avais quelques doutes, puisque t'as déjà Carl Anthony Towns, qui est comme un 5, mais Carl Anthony Towns n'est soft. Fait que peut-être je me suis dit, OK, quelqu'un d'avoir comme Rudy Gobert, qui est un peu plus... dominant dans la peinte, là, dans la clé, excusez. Puis ça allait faire du bien, mais je pense que ça va prendre du temps. C'est sûr que la méthode des Twin Towers, comme on dit, d'avoir deux bigs, justement, elle n'est plus très populaire de nos jours. Mais ça reste qu'ils vont essayer ça. C'est Rudy Gobert est un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue, puis Carl Anthony Towns justement n'est pas le meilleur joueur défensif malgré sa grandeur, donc il peut avoir plus ça va faire une équipe qui est meilleure en défensive, mais qui donneront pas trop justement le ballon à Rudy Gobert qui lui est plus là pour prendre des rebonds, avoir des shots faciles, ce qui limite pas justement, ce que je veux dire, c'est que ça limite pas justement l'impact que Carl Anthony Towns devrait avoir, ni l'impact d'Anthony Edwards qui a pas le début de saison qu'il souhaitait, mais quand même qui fait pas mal. Puis justement, c'est je pense que c'est ça leur plan, là, si tout allait bien, là. Je pense que c'est ça leur objectif, en fait. Mais tu sais, on peut pas... ça peut pas toujours tout bien aller comme ça quand tu fais des échanges comme ça. Puis c'est ça aussi, les Pelicans, je pense que Zion est de retour. Zion Williamson, le joueur le plus fun à regarder, même si c'est tout le temps blessé. C'est bien plaisant de voir Zion qui a perdu du poids. Est-ce qu'il a joué hier? Je m'en rappelle pas. Oui, il a joué hier. Il a pas beaucoup joué puisqu'il est tout le temps blessé. Mais quand même, les Pelicans sont quand même une équipe à regarder, je pense, cette année. Ils en ont surpris beaucoup l'année passée. Puis si Zion est capable de revenir en force comme il l'a été, je pense qu'il y a 2 ans, ça serait quand même bon pour eux. Mais là, t'sais, avec la shape qu'il y a, puis les dunks qu'il fait et tout, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour ses genoux, en fait, pour tout son corps. Mais bon, avoir un bon début de saison comme ça, ça fait quand même du bien pour cette équipe-là. Puis c'est une équipe avec des jeunes joueurs, justement, aussi, avec quelques vétérans. Puis, dernière équipe, là, il reste très peu de temps, mais qui m'impressionne, c'est les Trailblazers, justement. Ils ont perdu CJ McCollum, qui est rendu, justement, avec les Pelicans. Puis je pensais que ça allait vraiment être le downfall de cette équipe-là, mais là, ils sont très bien partis. Puis ils ont un monstre à deux têtes au poste de guard, là, au 1, qui est Damien Lillard, que la plupart connaissent. Et puis aussi, il y a Anthony Simons, qui lui a montré qu'il était capable d'être tout qu'un scoreur et tout qu'un joueur quand Damien Lillard justement s'était blessé l'année passée. Puis Jeremy Grant qui sont allés chercher qui est un bon joueur, mais qui est souvent un excellent joueur de rôle qui là prouve que son rôle est comme extrêmement bien rempli, justement, avec cette équipe-là, qui les aide vraiment. Et puis la recrue Shaedon Sharpe qui vient de repêcher, qui fait très très bien. Donc je pense que c'est ça qui avec Nurkic aussi, que je suis en disant en dernier, qui joue très bien comme pivot. Ça fait que malgré que ils ont peut-être pas le meilleur personnel sur papier, à part Damien Lillard, que c'est une équipe qui peut en surprendre avec les dernières années difficiles qu'ils ont eues. Ça fait le tour pour moi aujourd'hui. Je parlais un peu de football et de basket. J'encourage tout le monde d'aller en Ontario, aller encourager le Rouge et Or, puis d'aller toucher à Vanier. Puis sinon, merci de m'avoir écouté à Conduite Antisportive à Chez 94.3 et on se reprend prochainement. Au revoir.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
En passant par des films marquants de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
On est là pour discuter et donner nos impressions sur de multiples sujets, mais surtout pour t'apprendre des fun facts sur le monde créatif qui t'entoure et que tu te couches moins niaiseux.
En passant par des scènes marquantes de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson, fait que ça part! Mario est bagorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y'a personne qui peut chauffer. Le Carole à bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6-6, Desjardins! Faites-moi confiance, la gang. Venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
La passe est captée par son receveur. Touché! Rouge et or!
La Coupe Vanier, c'est sur les ondes de Chiz 94.3.
Le champion de la Coupe Mitchell, votre Rouge et or de l'Université Laval, se frottera au gagnant de la Coupe UTech, les Huskies de la Saskatchewan, pour l'obtention du titre de champion canadien.
Ne manquez pas l'avant-match de 12h30 en compagnie de Pascal Loubier et Victor Marchand. Rouge et or, Huskies, ce samedi 13h sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle du Rouge et or.
La tournée 95 s'arrête au Centre Vidéotron le 27 avril prochain. Les billets sont en vente maintenant sur Ticketmaster.ca. Angèle au Centre Vidéotron le 27 avril, une présentation de Gestev. Le nouvel album 95, en vente